Moi, je remercie beaucoup l'abbé Guelfucci, votre curé, de cette invitation qui me touche beaucoup. J'ai été heureux d'être avec lui à Notre-Dame-de-Grâce pendant 2 ans avant qu'il devienne curé de cette belle paroisse. Alors, le titre de cette petite conférence de carême, c'est « La Vierge Marie était-elle libre ?» Je repense à Lourdes, ce 11 février, dans le froid, il y a un peu plus de 150 ans, à l'apparition de la belle dame annoncée par le souffle de vent que la petite Bernadette entendit et qui ne fit pas bouger les feuilles des peupliers du Gave. Souffle mystérieux qui annonçait la Vierge, comme au commencement du monde, la terre était vide et vague, et un souffle de Dieu planait sur les eaux. Et je repense à cette petite fille qui tendit à la belle dame une feuille de papier, émerveillée par sa beauté, en lui demandant un peu naïvement de bien vouloir y écrire son nom. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» dit l'ange du Seigneur à Manoah au livre des juges. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est mystérieux. » « Ce que j'ai à vous dire, dit la belle dame, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Pas nécessaire, impossible sans doute, parce que un mot griffonné sur un papier volant ne saurait suffire à exprimer le mystère de Marie. Il faut l'expression d'un regard, d'un geste, une parole au-delà des mots pour dire ce mystère. » Elle l'exprimera plus tard à la petite fille en levant les yeux vers le ciel. « Je suis l'Immaculée Conception. » Elle se présente par un mystère de foi qui est défini quelques années plus tôt, en 1854, sous le pontificat du pape Pie IX. Elle assume entièrement ce mystère. Elle l'englobe tout entier. Elle ne dit pas « Je suis celle qui a été conçue immaculée ». Mais elle se définit par le mystère en sa plénitude. Elle est l'Immaculée Conception. Il n'y en a pas d'autre qui ait reçu cette grâce. « Kaire kekaritomene » dit le texte grec en Saint-Luc, « Réjouis-toi, toute comblée de la grâce. Jardin clos, source scellée » dit le cantique des cantiques. Fidèle à la tradition, l'Église affirme qu'elle a été préservée du péché originel par une grâce venant déjà de la mort de son fils, comme si la main du Père s'était posée sur elle, petite fille, et même dès avant sa naissance, pour qu'elle devienne la mère du Rédempteur. Marie, plus jeune que le péché, exprimait Bernanos dans une page magnifique sur la Vierge dans le journal d'un curé de campagne. Le vieux monde, le monde ancien, écrit-il, a longtemps porté de ses lourdes mains, de ses mains chargées de crimes, cette petite fille, la reine des anges. Là où tous les hommes naissent dans l'état de pécheur, elle a été sauvée de ce lien avec la mort qui nous affecte tous, en tant que nous portons en héritage une humanité belle et blessée. Pécheur, ma mère m'a conçue, dit le roi David, je suis né du plaisir, compagnon du sommeil, dit le roi Salomon, mais je suis tombé sur la terre, qui nous reçoit tous pareillement, et les larmes furent mon premier cri. Telle est l'ambivalence de l'homme, une beauté blessée, une vie gisant au pouvoir de la mort, une naissance dans les langes et dans les soucis, comme le dit encore le roi Salomon. La Vierge a eu ce privilège d'échapper à la naissance commune, là où le drame de l'homme, écrit François Cheng dans ses méditations sur la beauté, est de pouvoir faire mentir la beauté, ce que l'animal n'est pas capable de faire. L'homme peut faire mentir la beauté, la détourner, la prostituer. La Vierge, elle, allie les trois transcendentaux de l'être, la beauté, la vérité, la bonté. Elle est graciée par avance, gratuitement. Ce que vous avez reçu gratuitement, dit le Seigneur, donnez-le gratuitement. Alors la question que je me pose avec vous est celle de sa liberté. Était-elle libre dans sa parole donnée à l'ange, au fiat de l'Annonciation, aurait-elle pu refuser? À travers l'Immaculée, quelle vision de la liberté nous est donnée? Alors j'aimerais commencer par faire tomber ce qui relève d'images fausses ou caricaturales de la liberté, prendre le temps de définir ce que n'est pas la liberté. La première caricature, c'est l'oscillation. La seconde, c'est l'indécision. La troisième, c'est le choix du mal. L'oscillation. Si nous partons de ce que le sens commun affirme de la liberté, nous la réduisons souvent au libre arbitre, à la capacité d'accepter ou bien de refuser, posée comme équivalence. « Je fais ce que je veux », dit l'adolescent, illusion que l'âge d'homme se charge bien vite de corriger, tant il est vrai que la vie nous impose souvent de consentir à ce que nous n'avons pas immédiatement voulu. Cette conception de la liberté, qui se fonde d'emblée sur la capacité du refus, ou bien qui s'exprime comme alternative entre le bien et le mal, le oui et le non, me semble déjà marquée par l'expérience du péché, du moins quand elle pose une équivalence entre le choix du bien et celui du mal. Le Seigneur dit au livre de la Genèse, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cet arbre est-il l'arbre de la liberté que les révolutionnaires français érigeaient sur les places de nos cités, les mains coulantes du sang des hommes? Il constitue en tout cas le risque de la liberté, le signe dressé comme une mémoire permanente que l'homme n'est pas Dieu. Il demande d'entrer dans l'obéissance filiale à la parole du Seigneur, ou bien de se vouloir son propre maître, se couper de la main qui nous a façonnés et en qui, comme le dit saint Paul, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Connaître le bien et le mal. Le verbe « connaître » exprime l'idée, non pas d'une connaissance seulement intellectuelle, mais d'une expérience sensiblement vécu. Connaître, au sens biblique, c'est entrer en communion charnelle avec ce que l'on désire. Connaître signifie avoir fait l'expérience de. Ève, tentée par le diable, le diviseur, le menteur, vit que le fruit de l'arbre était beau à voir et désirable à manger. Avoir fait l'expérience du mal, qui avance toujours sous l'apparence du bien, constitue-t-il un surcroît de liberté? Dans son dernier livre de l'âme, François Cheng exprime que l'âme humaine découvre un mal qui lui est extérieur, mais qu'elle se heurte aussi à un mal qui lui est intérieur, beaucoup plus radical, et que nous pourrions définir par ce lien de connivence malsaine avec les ténèbres et leurs princes, avec ce qui divise l'homme. L'âme a lutté contre quelque chose de plus que la souffrance, écrit-il, le mal, un mal qui est enraciné en l'homme, donc en elle-même. Le récit du péché des origines renvoie chacun à sa propre expérience du péché, au lien intime que nous entretenons avec la mort par le consentement malsain de notre liberté blessée. Voir la liberté comme capacité de s'engager dans le bien ou dans le mal est déjà une altération de la liberté. Dieu est infiniment libre, et pourtant, il ne connaît ni le mal ni la mort. La croix du Christ, c'est l'entrée de Dieu dans ce qu'il ne connaît pas. En ce sens, Dieu seul est vierge face au scandale de la mort. Dieu n'a pas de connaissance expérimentale du mal par le consentement de sa liberté, cette réalité du mal lui reste absolument extérieure. Il ne connaît le mal que comme victime innocente. Pour nous, dit le bon larron, c'est juste avec ce que nous avons fait de mal, mais lui n'a rien fait de mal. La confession de l'innocence de Dieu et la reconnaissance de son péché lui ouvrent la porte du ciel. Nous sommes, nous, comme le bon larron, à la fois remplis d'actions de grâce pour le don de la vie et en même temps marqués par la mort à venir qui nous creuse déjà, comme le dit Patrice de la Tour du Pin, touchés par la grande aile sauvage du péché. La conséquence, c'est que nous réduisons souvent la liberté à la possibilité du refus, à l'oscillation permanente entre le oui et le non, à la possibilité de toujours reprendre son oui afin de rester libre. « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main », chantait Brassens. « Ne gravons pas nos noms en bas d'un parchemin, laissons le champ libre à l'oiseau. » Par le péché, la liberté de l'homme s'est inscrite dans la tentation permanente de l'ambivalence. Vouloir connaître le bien et le mal, c'est choisir une liberté qui risque d'osciller sans cesse entre l'acquiescement et le refus, une liberté qui veut toujours garder la main, toujours tenter de reprendre ce qu'elle livre, et qui demeure amputée de son envergure véritable. C'est la seconde caricature de la liberté, après celle de l'équivalence dans la connaissance du bien et du mal, c'est celle d'en rester à l'indécision, ne rien choisir, dans l'illusion de pouvoir toujours tout choisir. Cette parole « Je suis libre » ne signifie pas grand-chose. La liberté ne s'atteste que dans l'engagement et dans l'action. Elle n'est pas tant un état qu'un acte, ou plutôt la succession d'actes libres. Je suis libre dans la mesure où je me saisis de ma liberté, où je l'exerce. Je suis libre dans la mesure où je pose des actes libres. L'homme indécis, alors même qu'il pense avoir devant lui tout l'éventail des choix possibles, est en réalité esclave de son indécision. Il n'y a de liberté qu'actuelle, c'est-à-dire engagée dans le risque du choix. L'homme de la parabole des talents, que vous connaissez tous, celui qui enfouit le don de son maître dans la terre et lui dit à son retour de voyage « Voilà, tu as ton bien », se trouve condamné. « Jetez-le dans les ténèbres, dit le maître, pieds et poings liés. » Lié comme il l'a toujours été, car il n'y a pas de chaîne plus lourde que celle de ne jamais jouer le beau jeu de sa vie, comme l'écrit Guy de Larigaudie dans « Étoile au grand large ». Il vaut toujours mieux risquer sa liberté, quitte à faire des erreurs, que de ne jamais l'engager et la mettre en terre dans un linceul, tout en se targuant d'être un être libre. Don Juan prétend les aimer toutes, il n'aura jamais étreint que le vent changeant de son inconstance. Il chantera avec Trenet au couchant de ses jours, « Ce soir le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Il mourra seul, triste et fatigué de n'avoir poursuivi que les songes de ses propres passions. On ne peut vraiment aimer qu'en risquant sa liberté dans le basculement d'un don sans retour, en portant celui qu'on aime jusqu'à son dernier jour. Don Juan n'a pas compris, comme l'exprime Fabrice Adjadj, que la femme de ma vie doit devenir la femme de ma mort avant que d'être celle de mon éternité. » On devient un homme, une femme, quand on accepte de faire basculer sa liberté dans le définitif, avec celle de l'oscillation permanente, de l'incapacité à s'engager, qui est une caractéristique majeure de notre époque très adolescente, où, comme Diogène, sa lanterne à la main, nous cherchons un homme, l'autre impasse de la liberté est celle du choix du mal. L'homme est créé pour s'allier au don de Dieu, pour louer, révérer, servir Dieu son Créateur, et par là même sauver son âme, dit saint Ignace de Loyola dans le prologue des exercices. Soit l'homme va correspondre à la grâce et entrer dans le dynamisme de la vie. « Je place devant toi, dit le Seigneur au Deutéronome, la vie et la mort, choisis la vie. » Soit il va refuser le don de Dieu et vouloir connaître le mal, il tombera alors dans la mort et dans l'esclavage du péché. En fait, est-ce que le péché personnel est un acte libre? Oui, parce que cela atteste que nous en sommes les responsables, mais c'est un abus de la liberté. C'est un divorce intime, c'est une liberté qui va à rebours d'elle-même. La liberté de l'homme, orientée vers la connaissance du bien, va se trouver désorientée par la connaissance du mal. Elle va se replier, comme dit le psaume, dans le repli des ténèbres. « Malheureux homme que je suis, dit l'apôtre Paul, et s'il le dit, lui, nous pourrions le dire aussi, je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. » De sorte que nous vivons chez nous comme en terre étrangère, aliénés de nous-mêmes, que nous pouvons très bien contempler le ciel de la justice, de ce qu'il faudrait faire, mais rester enfoncés dans le bourbier de la volonté, de notre incapacité à le faire. Je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse, mais je reste toujours quelque peu incapable de l'accomplir totalement, à moins d'un secours puissant de la grâce sanctifiante. C'est ce divorce intime entre les facultés de l'âme, l'intelligence et la volonté que veut exprimer le labyrinthe que les constructeurs de la cathédrale de Chartres ont dessiné sur le sol à l'entrée de la nef. Pour trouver la vraie liberté, il faut que notre liberté soit libérée. Pour aller vers l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse, il faut sortir du labyrinthe, des errances du cœur compliqué et malade de l'homme, et trouver le fil d'Ariane qui vient du secours de Dieu, ou plutôt trouver celle qui marche en tête comme la première des sauvées, la Vierge Sainte, icône de la liberté humaine devant la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la liberté? Après avoir montré ce qu'elle n'est pas, nous pouvons essayer de trouver ce qu'elle est. La première chose à dire, c'est que la liberté n'est pas créatrice d'elle-même. Pour être libre, il faut être. Je ne suis pas à l'origine de moi-même. Simone de Beauvoir écrit dans les mémoires d'une jeune fille rangée « Je me rêvais l'absolu fondement de moi-même et de ma propre apothéose. » Je me rêvais, mais c'est précisément un rêve, ou bien un cauchemar de solitude. Un seul est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous ne sommes que des créatures. Je ne vous apprends rien, mais il est bon de le rappeler. Vous trouvez dans la parole de Simone de Beauvoir, compagne de Sartre, qui a écumé ma nouvelle paroisse, l'une des racines françaises de la théorie du genre, où l'enjeu n'est pas de devenir ce que nous sommes, mais de devenir ce que nous voulons être, en refusant que la vie nous soit donnée pour nous vouloir les créateurs absolus de nous-mêmes, à partir de rien. Voyez la chanson de Conchita Wurst à l'Eurovision, intitulée « Like a Phoenix ». C'est une femme qui est devenue un homme par quelque opération, ou l'inverse, je ne sais plus. Vous voyez, l'illusion marxiste est une faute contre le rédempteur, où l'homme prétend obtenir sa liberté par son œuvre propre, par la révolution, la dictature du prolétariat jusqu'à une société sans classe, en refusant d'être sauvé. Mais l'idéologie du genre et le long cortège de ses œuvres de mort est un refus du Dieu créateur. Comme le phénix renaît de ses cendres, je deviens absolument ce que je veux être, sans jamais devoir consentir à la nature qui m'est donnée. Et en ce sens, le genre est une faute plus originelle que le marxisme, qui ne remettait pas en cause l'existence d'une nature humaine. Pour pouvoir choisir, il faut recevoir. L'arbre du premier psaume grandit parce qu'il s'enracine au bord des eaux. Les racines donnent des ailes. Quand je suis né, mon père a planté un arbre dans le jardin de notre maison familiale. Un arbre pour chaque enfant qui naissait. Un cèdre. Parfois, j'aime écouter le vent chanter dans sa ramure, image d'une vie qui grandit parce qu'elle plonge ses racines dans un sol, une famille, une nation, une patrie. Je ne suis pas citoyen du monde. Je suis né d'une terre, je suis né d'une mère. Les grandes idéologies ont toujours voulu séparer l'enfant de sa mémoire sous prétexte de le rendre libre, en réalité pour le rendre malléable et perméable aux conventions de l'ère du temps. L'ancien ministre de l'Éducation nationale affirmait que l'enjeu de sa refondation de l'école était d'arracher l'enfant à tous ses conformismes culturels, familiaux et religieux. Pour en faire quoi? Sinon, l'une de ces méduses qui n'ont ni eau ni forme, dont parle Saint-Exupéry dans Citadelle, ballottée par les mouvances des pensées convenues de l'ère du temps. En vérité, toute liberté repose sur un don qui lui est fait, et la famille, belle et blessée, est la première terre de la personne à laquelle il doit nécessairement consentir et que l'État se doit de respecter. L'arbre de la liberté ne se déploie pas sans racines. Voilà pourquoi, je vous le disais, les grands idéologues ont toujours voulu couper l'enfant de sa mémoire. Ne sachant pas d'où il vient, il ira là où on lui impose d'aller. On pensera pour lui. Il est effrayant de voir le poids du conformisme intellectuel dans ces sociétés où l'on a patiemment détruit tous les murs porteurs et méthodiquement scié les racines de la mémoire. Il n'y a pas de culture française, disait il y a quelques jours un homme très en vue qui prétend pourtant diriger la France. Sans vouloir, par prudence, désigner un candidat plutôt qu'un autre, il est tout de même légitime de critiquer cette hallucinante affirmation. Clovis et Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Rabelais, Montaigne, Henri IV, Pascal, Molière, Descartes, La Fontaine, Louis XIV, Victor Hugo et tant d'autres doivent se retourner dans leur tombe, ou plutôt dans leur ciel, j'espère. La liberté est fondamentalement consentement aux dons reçus. On ne peut cultiver qu'une nature qui nous est donnée. L'homme ne peut se contenter de vivre, il doit choisir la vie, creuser ses racines pour déployer ses ailes. Mais la liberté est aussi mouvement vers le bien. Sans don sur laquelle la faire reposer, la liberté ne peut pas s'exercer. Mais sans but où aller, la liberté est comme folle. Elle a perdu comme une boussole l'aiguille qui indique le nord. Henri Hude disait que la grande aventure n'était pas de partir loin, mais d'aller vers. Ainsi, la liberté d'un homme, d'une femme, est un mouvement, une trajectoire, un moteur à quatre temps, si vous voulez. Elle est d'abord l'engagement vers le bien perçu, puis les moyens d'obtenir ce bien, puis la fidélité à ses moyens, puis la joie d'obtenir le bien que l'on désire. La liberté ne se situe pas au terme de ces quatre temps. Elle est présente à chacun de ces temps. Si nous appliquons cette description à la sainteté, nous pourrions dire que la sainteté consiste à correspondre à la grâce, à déployer sa vie vers le bien, sachant que ce bien est infini et que nous irons donc de hauteur en hauteur, comme le dit le psaume. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, écrit saint Augustin, et notre cœur est inquiet tant qu'il demeure loin de toi. Nous pourrions dire que la liberté est consentement à l'alpha et déploiement vers l'oméga. L'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé aussi vers l'image de Dieu. In via, disent les pères de l'Église, en chemin. En ce sens, nous n'aurons jamais fini d'être libres, jamais fini d'être saints, de grandir en liberté. Et en ce sens aussi, il y a parmi nous, ici, dans cette assemblée, des êtres qui sont beaucoup plus libres que d'autres, parce qu'ils habitent davantage leur être, leur mémoire, parce qu'ils luttent davantage contre le péché qui nous entrave si bien, parce qu'ils correspondent, plus que d'autres, à la grâce reçue de Dieu. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Coluche disait, il y en a qui sont un peu plus libres que les autres. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, dit La Fontaine. Donc libres et égaux en droit, espérons-le. Mais pour ce qui est de la dimension intérieure de la liberté, les hommes sont plus ou moins libres, et beaucoup qui paraissent libres au regard des hommes ne sont que de misérables esclaves enchaînés, alors que d'autres qui paraissent esclaves au regard du monde ont une envergure de liberté incomparablement plus grande. Ainsi, nous en venons à notre sujet, ou plutôt à notre mystère, à celle qui allie la beauté, la vérité et la bonté, la Vierge Sainte. Était-elle libre? Elle se tient dans la chambre de Nazareth, un ange passe, une parole retentit, « Kaire kekaritomene, réjouis-toi, toute comblée de grâce ». Vous connaissez sans doute l'expression « un ange passe ». C'est une parole qui tente d'exprimer un silence. Le silence est l'écrin nécessaire pour accueillir la parole. Pascal disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir se tenir en silence dans sa chambre. La Vierge se tient en silence dans sa chambre, non pas le silence lourd et pesant de celui qui s'enferme en lui-même et se mure à toute influence extérieure pour rester dans son monde, non pas le silence de mort, mais le silence qui précède l'irruption de la vie, le silence comme capacité d'écoute, comme disponibilité à accueillir un autre que soi. Silence et parole, parole et silence. La Vierge est pétrie de la mémoire de son peuple, de la loi du Seigneur qu'elle murmure, des écrits d'Israël. « Ma parole, dit le Seigneur au livre d'Isaïe, ne reviendra pas sans avoir accompli sa mission. » Le silence comme présence, comme patience, comme mûrissement de la liberté. La Vierge a pu accueillir la parole de l'ange parce qu'elle attendait le Messie, parce qu'elle était capable de patience, parce qu'elle habitait sa mémoire. Elle était la Vierge du silence, elle a enfanté la parole. Je suis allé en Terre Sainte, à Nazareth, comme peut-être certains d'entre vous, prier dans cette maison que la tradition nous présente comme la maison de la Vierge, ces quelques pierres éparses qui ont pourtant vu le passage de l'ange et l'incarnation de Dieu, qui ont été les témoins muets de l'événement du salut qui a changé la face du monde. La jeune femme de Nazareth est vierge, mais elle sait qu'elle ne pourra trouver sa vie qu'en la donnant. Sa virginité n'est pas le signe de son enfermement dans une citadelle imprenable, mais elle est une virginité d'offrande à la puissance de Dieu. Et il y a un lien entre son silence et sa virginité. Le silence pour que retentisse la parole, la virginité pour qu'elle devienne épouse, pour que l'Esprit Saint la prenne sous son ombre. La Vierge s'est gardée pour pouvoir mieux se donner. Elle est pleinement libre, en ce sens qu'elle accueille le passage de la grâce, qu'elle correspond au don de Dieu. Plus nous correspondons à la grâce, et plus nous serons libres. Ne retenez pour vous rien de vous, disait le Père Marie-Joseph des Fraternités franciscaines. Ne retenez pour vous rien de vous. Plus vous cherchez la vie intérieure, plus vous serez vous-même. La Vierge accueille la grâce et se détermine vers le bien. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Comment cela sera-t-il puisque je suis vierge ? Dans cette réponse, qui est à la fois une acceptation et une question, la Vierge atteste de sa pleine lucidité, de l'entière disponibilité de ses facultés. Cela sera, mais comment ? L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La réponse de l'ange est une réponse en clair-obscur, pas en pleine lumière. Et ici, nous comprenons que le déploiement de la liberté humaine ne se fait jamais dans la pleine vision. Pour être libre, il faut consentir à la confiance en la parole de Dieu. La liberté n'est pas la pleine vision des conséquences de notre engagement. On ne devient libre qu'en se risquant à l'ombre de Dieu. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. La Vierge prononce son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle engage sa vie dans ce qu'elle perçoit comme un bien qui lui correspond, mais elle ne mesure pas entièrement là où le conduira son acceptation. L'ange a parlé, dit saint Bernard, et il attend ta réponse. Dans une des plus belles homélies de l'histoire de l'Église sur la Vierge, tu l'as entendu, ô Vierge, tu vas concevoir et enfanter un fils. Nous aussi, nous attendons ta réponse. Si tu consens, nous serons libres. Dans la parole éternelle de Dieu, nous avons été créés et nous mourrons. Dans ta brève réponse, nous serons recréés pour être appelés à la vie. Tous tes ancêtres attendent ta réponse. Dieu lui-même attend ta réponse. Réponds une parole et accueille la parole, prononce ta propre parole et conçois la parole de Dieu, émets une parole passagère et étreins la parole éternelle. La Vierge consent au don de Dieu, elle ne rate pas le passage de l'ange, elle oriente toute sa volonté vers le bien qu'elle perçoit, mais elle ne le perçoit qu'en clair-obscur. Assez pour poser une parole libre, trop peu pour prétendre voir toute chose dans la pleine clarté. Comme Abraham, son ancêtre, partit sans savoir où il allait, elle renonce à tout voir du mystère qui s'accomplit en elle. Et là, elle nous donne la plus grande leçon sur la liberté, celle de savoir qu'on ne devient vraiment libre qu'à la mesure de notre fidélité au don reçu. Son fiat, la Vierge devra le prononcer à nouveau lors de la présentation de Jésus au Temple. Et toi, dit Siméon, un glaive transpercera ton cœur. Dans le recouvrement de Jésus au Temple à 12 ans, dans sa fuite en Égypte, au début de la vie du Christ, dans le recouvrement au Temple après 3 jours d'angoisse, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Dans le fait que son Fils lui échappe sans cesse, et enfin, à l'heure de la croix, où elle est la Stabat Mater, dans l'espérance de la résurrection. Ceux qui pensent que la liberté de la Vierge était facile ou évidente du fait de sa conception immaculée n'ont qu'à la contempler sous la croix du Christ. La Vierge a consenti à un mystère immense, du sourire d'un enfant nouveau-né jusqu'à la vallée des larmes, au sang versé, à la nuit du tombeau, elle repose encore et toujours le fiat de sa liberté. À Lourdes, la belle dame égrène son chapelet comme pour revivre tous les mystères, les joyeux, les lumineux, les douloureux, les glorieux, tout l'itinéraire de sa liberté, du consentement fidèle à la grâce. Ce que la Vierge nous donne, c'est la fidélité d'un amour fort comme la mort. C'est de penser et vivre notre liberté, à la fois comme l'accueil du don de Dieu et comme un combat qu'il nous faudra vivre jour après jour, jusqu'au soir de nos jours, jusqu'à l'aurore du jour nouveau, dans la fidélité. De la Stabat Mater à Notre-Dame de la Pentecôte, de la nuit de la Passion au mystère du Ressuscité. Je vous remercie et me confie à votre prière.